en ce 16 février, c'est la fête, encore une fois, de nombreux saints, mais je vais procéder assez rapidement parce que c'est un anniversaire extrêmement important dimanche. D'autres disent que c'est aujourd'hui, mais je crois bien que c'est dimanche l'anniversaire du décès de Martin Luther. Vous direz, qu'est-ce que Martin Luther vient faire dans une émission qui est en général bien catholique? Je vous rappelle que je vous ai déjà parlé de Zwingli, de Jean Hus, je compte vous parler de Jean Calvin et de quantité d'autres grands réformateurs protestants qui, dans l'ensemble, ont cru bien faire en voulant réformer l'Église et, à cause d'événements malheureux, s'en sont séparés et ont été condamnés. Et malheureusement, l'Église en est réduite aujourd'hui à être grandement divisée. Et c'est un grand drame. Mais ce n'est pas nécessairement de la faute des réformateurs. Je dis bien pas nécessairement. D'ailleurs, le pape Jean-Paul II a dit à l'occasion du centenaire de la naissance de Martin Luther, que l'on célébrait il n'y a pas si longtemps, il avait dit au révérend James Crumley, l'évêque président de l'Église luthérienne d'Amérique, car les luthériens sont répandus à travers le monde, ils sont des dizaines de millions, n'est-ce pas, mais pas tout à fait unis. Et il lui disait qu'il priait quotidiennement, chaque jour, n'est-ce pas, pour que l'Esprit Saint lui inspire les démarches que l'Église catholique devrait prendre pour réparer cette grande scission, cette grande séparation des catholiques et des luthériens qui dure depuis 5 siècles. Le pape Jean-Paul II a d'ailleurs posé des gestes remarquables quand il est allé en Allemagne auprès des grands luthériens, les chefs de l'Église luthérienne. Il a été remarquable de compréhension. Et c'est sur lui que je voudrais me modeler, car je tiens à spécifier une fois de plus que je suis catholique et profondément attaché à mon Église en dépit de toutes sortes de choses qu'on pourrait lui reprocher. On ne reproche rien à l'Église en tant que telle. C'est certains événements, des événements historiques, certaines actions plus ou moins pénibles de certains papes, de certains évêques et des prêtres, et de l'ensemble de nous, les laïcs catholiques, et de moi-même. Car moi-même, j'ai eu une quasi un mépris, pour ne pas dire une haine, que je portais à Luther quand j'étais plus jeune. J'étais formé un peu comme ça, sans trop m'en rendre compte. J'ai beaucoup souffert de ça. Mais avec le temps, avec le progrès des choses, avec le grand mouvement écuménique, avec ce que m'a apporté le père Irénée Beaubien, qui m'a invité dès le début du mouvement écuménique à la fin des années 50 à participer à des prières secrètes que l'on faisait avec des dirigeants des églises protestantes de Montréal. On s'enfermait à l'Université de Montréal derrière des portes closes. Il ne fallait pas parler de ça à qui que ce soit, que nous prions ensemble, afin d'éviter le scandale. Pourtant, c'était des gestes d'affection qu'on se portait les uns aux autres en dépit de nos, oh mon Dieu, de nos réticences naturelles à chacun d'entre nous, je pense bien. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. J'avais lu à l'époque l'immense bouquin Martin Luther de Grisard, Hartmann Grisard, un jésuite, professeur à l'université d'Innsbruck. Martin Luther, sa vie et son œuvre. C'était traduit de l'allemand par l'abbé Mazoyer. C'était paru en 1931 chez Le Tielu, encore Le Tielu qui a tant publié. Et dans cet ouvrage, eh bien, mon Dieu, l'auteur essayait d'un peu comprendre Luther, mais n'y parvenait pas. Il était un peu mieux que d'autres auteurs qui l'avaient précédé, mais c'était quand même pénible. Et par la suite sont parus mettons un livre dont je m'inspirerai, publié ici, au Québec, par un dominicain québécois, Jean Brosseau. Et il a publié « Psychologie religieuse », un petit ouvrage aux éditions du Levrier en 1955, sur Luther, Newman, dont je vous ai déjà parlé, Edith Stein, dont je vous ai parlé aussi, Calvin, Lamennais et Lord Halifax, ce grand anglican qui a tellement travaillé à l'union de l'Église anglicane et de l'Église catholique, avec M. Portal, prêtre catholique. Ce sont de grands événements que j'ai suivis avec beaucoup d'intérêt dans ma jeunesse. J'ai tellement aimé ce grand mouvement d'affection réciproque, de compréhension mutuelle entre chrétiens. Et le livre que je vous recommanderais, je vous le rappellerai à la fin de l'émission, c'est celui de Jean Delumeau, publié chez Desclée de Brouwer, « Le cas Luther ». Je vous le recommande parce qu'il n'est pas trop long et il n'est pas compliqué à lire. Il n'a même pas 100 pages. Mais il est excellent. Il parle de l'importance historique et la grandeur de Luther. Lui, il est catholique, Jean Delumeau. Ensuite, Luther, dans son temps, il faut bien le situer dans son temps, et le nécessaire recul par rapport à Luther, puis il apporte une conclusion extrêmement intéressante. Luther est donc mort il y a 450 ans. Sa vie publique, de moine catholique au début, est un drame. On peut dire qu'elle débute brusquement le 31 octobre 1517. Catholique, il est jeune maître de l'université de Wittenberg. Et il affiche à la porte du château 95 thèses qui s'oppose à la doctrine traditionnelle de l'Église catholique. Si vous preniez le temps de lire ces thèses, vous vous y reconnaîtriez en grande partie. Et vous diriez qu'il c'était un réformateur catholique qui avait de bonnes idées en grande partie. Je le dis en toute simplicité. J'étais ému en lisant ces thèses. Et 3 années se passent donc dans l'incertitude et l'angoisse, et là il y a un nouveau coup de théâtre, le 10 décembre 1520, donc 3 ans plus tard. Il jette au feu devant une foule d'admirateurs la bulle qu'il avait reçue de Rome, un document intitulé « Exsurge », qui le condamne et qui l'excommunie. Et il s'écrit, « Puisque tu as affligé le sein du Seigneur, le sein du Seigneur, c'est un peu prétentieux dans un sens, mais c'est la conviction d'un homme qui se veut sincère. Ils disent qu'il ajoute que le feu éternel te dévore. » Il rejette cette condamnation. Et c'est, on peut dire, ce jour-là, le 10 décembre 1520, que la réforme protestante vient de commencer. Il ne veut pas se séparer de l'Église. C'est pas son but. Il fait ce que d'autres ont pu faire. Savonarole, Giordano Bruno, etc. Et aujourd'hui, des gens comme Congar, qui a déjà été condamné, le père Congar dominicain, le père Chenu dominicain aussi a été condamné, dans ce siècle-ci. Mais ils ont été finalement des piliers du Concile. Alors, il faut pas s'acharner contre Luther. Il faut essayer de comprendre. Je ne dis pas que tout est bon chez Luther. Dans l'histoire moderne du christianisme, on peut dire qu'il n'y a pas d'événement plus grave que cet événement où il a brûlé la bulle Exsurge. Il était prêtre et moine augustin. Il accuse publiquement l'Église d'avoir manqué à sa mission divine. Il l'accuse d'avoir substitué des doctrines humaines à la doctrine du Christ et d'avoir perdu le sens des Écritures. Je ne veux pas scandaliser qui que ce soit, mais je crois qu'il avait en partie raison. Et les catholiques le reconnaissent de plus en plus. Vous savez que à Milwaukee, en 1983, 20 grands théologiens luthériens catholiques ont annoncé qu'ils avaient réussi à se comprendre mutuellement sur les choses essentielles, au sujet de la théorie de la justification dont je vous parlerai tout à l'heure, qui est une des pierres d'achoppement. C'était une des raisons pour lesquelles la réforme protestante est née. Et ces théologiens sont entendus pour comprendre que cette doctrine n'avait plus raison de tenir les catholiques et les protestants séparés. Vous direz que nous avions, nous catholiques, baissé pavillon, pas du tout. C'est que de part et d'autre, il y a eu sur les mots une compréhension mutuelle et on a fini par comprendre. Car Luther est le témoin passionné d'une crise intérieure, une crise qui le bouleverse profondément, c'est un chrétien convaincu. Un pécheur, peut-être, sous certains rapports, c'est sûr. Mais qui n'est pas pécheur dans l'Église? D'accord, on peut dire que le grand théologien que j'ai eu la chance d'interviewer, Hans Urs von Balthasar, n'était pas un pécheur. Il semblait bien être un saint. Mais combien d'autres théologiens grands que j'ai rencontrés m'ont laissé un peu sur ma faim? Mais je n'ai pas de jugement porté. Ce n'est pas moi qui pourrais juger. Mais l'impression qu'on a nous laisse un peu pantois des fois à la suite d'une interview. Et Martin Luther va se séparer de Rome et va entraîner à la suite des millions d'âmes. C'est triste, c'est grave, extrêmement grave. Mais l'Église ne perdra pas son unité. Elle va perdre en divers pays un grand nombre de fils qu'elle aimait. Quand je parle de cette Église, je parle de l'Église corps du Christ. L'Église qui a le mandat reçu de Jésus-Christ. Je ne parle pas de l'Église dans les telle personne. Et l'Église va toujours regretter l'éloignement. Elle va toujours espérer le retour de ses enfants. La vraie Église, l'Église des saints, quoi. À 18 ans, il faut rappeler que Martin Luther était entré à l'université d'Erfurt. Il s'y est distingué d'ailleurs par des succès extrêmement brillants dans l'étude du droit, de la philosophie, des humanités. C'était un homme profondément instruit. Et ses biographes signalent que cet étudiant était un jeune homme, dit-on, ouvrez les guillemets si vous voulez, de bonne et joyeuse nature, qui était livré aux douces études et à la musique qu'il aima toute sa vie. Vous savez qu'il a composé des chants choraux luthériens de toute beauté. Vous en entendez parfois sur les ondes de Radio Ville-Marie. Ils sont magnifiquement inspirés et nous aurions tout intérêt à les chanter nous-mêmes dans nos églises catholiques, car ils sont profondément chrétiens. Ouvrons nos œillères, ouvrons notre cœur, ouvrons notre âme, tendons la main, sans quitter l'Église catholique. Adressons à nos frères tout ce que nous avons d'amour du Christ en nous. Dès cette époque, dans sa jeunesse, il est capable de colère violente. C'est un violent. Il n'est pas seul. Je vous ai déjà mentionné certains saints qui avaient des violences. Et prenons simplement, je ne veux pas rabaisser notre Seigneur évidemment, mais rappelons-nous la colère qu'il a fait dans le temple de Jérusalem quand il a voulu réformer le temple. Car le Christ est un réformateur aussi. Il a jeté les tables des changeurs par terre, mais c'était d'une violence épouvantable. Imaginez-vous, c'est effrayant, mais c'est notre Seigneur. Lui, la douceur, la bonté, la perfection même. Or, la rudesse s'est demeurée un trait de son tempérament. Il va même dire un jour, il le reconnaît, « Je ne puis nier que je sois plus violent qu'il ne convient. Puisque mes adversaires le savent, ils ne devraient pas exciter le chien. Presque tout ce qu'on donne, mon ton mordant. » Il a une façon de parler qui est extraordinaire. À pénétrer davantage, d'ailleurs, l'âme de Luther, on s'aperçoit que dès son enfance, il craint horriblement la justice divine. Qui d'entre nous, les gens les plus âgés, n'ont pas craint cette justice divine? Comme on craignait de mourir en état de péché mortel sans avoir un prêtre à qui se confesser. Comme on avait peur de Dieu. Et combien de gens que je cite parfois au moment de la mort ont une peur épouvantable de Dieu. Ils se jettent dans les bras de la Sainte Vierge tellement ils ont peur de Dieu. Car pour eux, la Vierge est bonne, mais Dieu est cruel et méchant et sévère et dur. Ils craignent cette justice comme une justice épouvantable. Alors ils voient en Dieu un juge irrité, vengeur. Et jamais il va réussir à se départir entièrement de ce complexe, qui le rend misérable. Et parfois ça le terrasse. Mélenchon, qui a vécu de 1497 à 1560, son vrai nom c'était Philippe Schwarzed. Le Mélenchon, qui était né à Bretten, un réformateur allemand, c'est un disciple de Luther, a participé avec Luther à la rédaction de la fameuse confession d'Augsbourg, qui confirme la réforme protestante. Il écrit souvent, quand Martin Luther songeait à la colère de Dieu et à ses jugements, une telle épouvante s'emparait de lui qu'il en rendait presque l'âme. Je l'ai vu moi-même en parlant sur un point de doctrine, se jeter tout à coup sur un lit dans une chambre voisine et s'écrier à plusieurs reprises « Ah, Dieu les a tous soumis à la damnation éternelle afin d'avoir pitié de tous. » C'est vraiment une peur de Dieu terrible. Or, Luther a l'âme troublée par l'incertitude de son salut éternel. Qui est sûr, d'ailleurs, de son salut éternel? On peut le comprendre. Mais disons qu'il exagérait. Il se sentait maudit de Dieu et comme traqué. Et parfois, il va même essayer de noyer dans le vin et les plaisirs, à un moment donné, ses appréhensions. Mais ça ne durera pas tellement longtemps. Il sera de nouveau terrifié par la justice divine. Il va voir dans les événements courants une confirmation de ses craintes, hein, parce que c'est une époque extrêmement pénible. N'oublions pas que peu de temps avant cette réforme protestante, il y avait sur le siège du pape à Rome l'épouvantable pape Alexandre VI. Il y en a eu d'autres papes bien pénibles, bien effroyables. Il y a eu Jules II, ce pape guerrier. C'est pas drôle, vous savez, vivre sous des papes pareils. Rendons grâce à Dieu si nous, qui sommes nés catholiques, nos ancêtres ont été fidèles à l'attachement à cette Église malgré tous ces moments difficiles. Remercions nos ancêtres, prions pour eux, soyons fiers d'eux et remercions que nous nous soyons demeurés catholiques. Comment se fait-il? Pourquoi n'ont-ils pas quitté? C'est une grâce extraordinaire. Hein? Un ami avait été tué dans un duel. Un autre avait été frappé par la foudre alors qu'ils faisaient route ensemble. Il se disait, Martin Luther, quand Dieu se vengera-t-il de mes fautes? Alors c'est le Dieu vengeur qui hante Luther. Mais alors que faire pour se mettre à l'abri de la colère divine? Est-ce qu'il n'y a pas un endroit plus sûr que le cloître? Il va faire comme Saint-Pierre d'Amiens, dont je vais vous parler mercredi prochain. Saint-Pierre d'Amiens était tenté par toutes sortes de choses. Alors il s'est jeté au cloître, il est devenu une sorte de camaldule, un ermite pas facile à faire. Et c'est comme ça qu'il a trouvé le chemin de Dieu. Alors c'est Martin Luther a la même idée, comme bien d'autres, des milliers d'autres. Il entre au cloître. Alors il va se réfugier là et la vie religieuse apaise un instant ses craintes, mais la tempête reprend. C'est pas parce qu'on porte un costume qu'on change. C'est beaucoup plus violent, même. Il est assailli par toutes les tentations à la fois, alors il lutte courageusement d'abord, puis il se laisse aller au découragement. On se demande s'il ne se serait pas livré à l'époque aux mortifications effroyables, comme font souvent ces gens-là. À l'époque surtout, quand ils entrent dans des monastères, ils veulent changer de vie. C'est possible, les biographes le disent. Mais alors, il se rend à Rome, car il veut essayer de réformer un peu le couvent. Et dans les mémoires de Luther, qui sont écrits par lui-même, ça a été traduit, mis en œuvre par Jules Michelet, c'est publié au Mercure de France. Et je relisais ça ces jours-ci, et je trouve que c'est tellement important que je crois devoir vous en lire une partie. Voilà Luther en Italie, c'est un moment de joie, d'immense espoir, que celui où l'on descend les Alpes pour entrer dans cette glorieuse contrée. Il espérait certainement raffermir sa foi dans la ville sainte, laisser ses doutes au tombeau des saints apôtres. N'oublie pas, il est catholique, là. C'est un moine catholique. La vieille Rome aussi, la Rome classique l'attirait, ce sanctuaire des lettres qu'il avait cultivé avec tant d'ardeur dans sa pauvre ville de Wittenberg. D'abord, il est reçu à Milan dans un couvent de marbre. Il continue de couvent en couvent, c'est-à-dire de palais en palais. Et oui, les couvents étaient des palais. Partout, grandes chairs, tables somptueuses. Le candide allemand s'étonnait un peu de ces magnificences de l'humilité, de ces splendeurs royales de la pénitence. Il se hasarda une fois à dire aux moines italiens qu'il ferait mieux de ne pas manger de viande le vendredi, et cette parole faillit lui coûter la vie. Il n'échappa qu'avec peine à leurs embûches. Vous savez, c'est extrêmement décadent à l'époque. Il continue, triste, désabusé, à pied, dans les plaines brûlantes de la Lombardie. Il arrive malade à Padoue. Il persiste. Il entre mourant à Bologne. La pauvre tête du voyageur, de Martin Luther, avait été trop rudement frappée du soleil d'Italie et de tant d'étranges choses et de telles mœurs et de telles paroles. Il resta alité à Bologne, dans la ville du droit romain et des légistes, croyant sa mort prochaine. Il répétait tout bas, pour se raffermir, les paroles du prophète et de l'apôtre, « Le juste vit de la foi ». Voyez-vous, cette parole est à la base de toute la pensée de Luther. « Le juste vit de la foi ». Ne nous méprenons pas, je vais vous expliquer deux secondes. La foi, pour lui, permet d'accepter le Christ, d'aimer le Christ, de vivre pour lui, en dépit des péchés qu'il commet. Et c'est cette vie avec le Christ qui fait que les bonnes œuvres surgissent par après. Mais la foi doit être là au départ, afin que le Christ vive au creux de son âme, le transforme et l'amène aux bonnes œuvres. C'est pour ça qu'il dit le juste est sauvé par la foi. C'est un raccourci qui peut nous déplaire, mais au fond, on dit la même chose. Pas tout à fait, mais presque en tous les cas. Je continue la lecture, il exprime naïvement dans une conversation combien l'Italie faisait peur aux bons Allemands. Il suffit aux Italiens que vous regardiez dans un miroir pour qu'ils puissent vous tuer. Ils peuvent vous ôter tous les sens par le secret poison. Et ils empoisonnaient facilement les gens, et ça se pratiquait beaucoup. Rappelez-vous l'affaire des poisons à la cour de France et toutes ces choses-là. Je vous en reparlerai un jour peut-être. Et en Italie, il dit, l'air est pestilentiel. La nuit, on ferme exactement les fenêtres et l'on bouche les fentes. Quand on lit la vie à ce temps-là, même à Paris, c'était épouvantable, c'était pestilentiel, il n'y avait pas d'égout, hein, les maladies se répandaient. Il faut lire la vie au temps d'eux, il y a toute une collection, j'en ai une énorme collection chez moi, c'est passionnant à lire, c'est beaucoup plus intéressant que la télévision, je le dis, moi qui suis un ancien réalisateur de la télévision, hein. Je le dis sans fausse honte. Je continue la lecture. Luther assure qu'il fut malade, ainsi que le frère qui l'accompagnait, pour avoir dormi les fenêtres ouvertes, mais ils mangèrent deux grenades par lesquelles Dieu leur sauva la vie. Il continua son voyage, traversa seulement Florence et entra enfin dans Rome. Mais là, ça sera pas drôle. Hein? Il descendit au couvent de son ordre, les Augustins, près de la porte du peuple. Lorsque j'arrivai, je tombai à genoux, levai les mains au ciel et je m'écriai « Salut, saint Rome, sanctifié par les saints martyrs et par leur sang qui y a été versé. » Et dans sa ferveur, dit-il, il courut les saints lieux, vit tout, crut tout. Il s'aperçut bientôt qu'il croyait seul. Il exagère, évidemment, il n'était pas seul, mais enfin, il avait le sentiment d'être seul à vraiment croire. C'est un sentiment que l'on a parfois nous-mêmes, hein? Quand l'orgueil s'empare de nous, que le démon nous tente, il nous laisse croire que nous sommes les seuls à bien croire. Grave, grave, grave tentation. Je continue le texte. Le christianisme semblait oublié dans cette capitale du monde chrétien. Le pape n'était plus le scandaleux Alexandre VI, c'était le belliqueux et colérique Jules II. Il faut lire la vie de Jules II, c'est épouvantable. Je vous le ferai peut-être un jour. « Ce père des fidèles, dit le texte des mémoires de Luther, ce père des fidèles ne respirait que sang et ruine. On sait que son grand artiste Michel-Ange, mon émission lundi sera consacrée à Michel-Ange, le représenta foudroyant Bologne de sa bénédiction. Le pape venait de lui commander pour lui-même un tombeau grand comme un temple, et c'est vrai, hein? C'est le monument dont il nous reste le Moïse, entre autres statues, ce fameux Moïse de Michel-Ange qui est si beau. Hein? Mais tout ça vient d'un pape qui était vraiment épouvantable, Jules II. L'unique pensée du pape et de Rome, c'était alors la guerre contre les Français. Luther eût été bien reçu à parler de la grâce et de l'impuissance des œuvres. À ce singulier prêtre qui assiégeait les villes en personne, ben oui, Jules II avait porté une armure, monté à cheval et s'en allait à la guerre. C'était effrayant quand on y pense. Il faut, nous, catholiques, que nous soyons capables d'accepter ces choses, de prier Dieu qui nous préserve à l'avenir de quelques papes de cette sorte. Nous qui avons été bénis par des papes, peut-être pas tous parfaits, mais en tous les cas depuis un siècle et demi, par des papes vraiment, en général, franchement remarquable, et nous sommes privilégiés. Alors ce singulier prêtre qui a siégé les villes en personne, qui récemment encore n'avait voulu entrer à la Mirandole que par la brèche, ces cardinaux, apprentis officiers, étaient des politiques, des diplomates ou bien des gens de lettres, des savants parvenus, qui ne lisaient que Cicéron, écoutez bien ça, qui auraient craint de compromettre leur latinité en ouvrant la Bible. S'ils nommaient le pape, c'était le grand pontife. Un saint canonisé était dans leur langage « relatus inter divos », c'est-à-dire relié parmi les divins, comme si Dieu était multiple. Et s'il parlait encore de la grâce, il disait « deorum immortalium beneficis », comme s'il y avait de nombreux dieux. Et là, je termine en disant, si notre Allemand se réfugiait aux églises, il n'avait pas même la consolation d'une bonne messe. Le prêtre romain expédiait le divin sacrifice à de telle vitesse que Luther était encore à l'évangile quand l'officiant lui disait « Ite missa est ». C'était les dernières paroles en latin de la messe pour ceux qui sont jeunes. « Ite missa est ». Ces prêtres italiens faisaient souvent parade d'une scandaleuse audace d'esprit fort. Il leur arrivait, en consacrant l'hostie, de dire, imaginez, « panis est et panis manibis », c'est-à-dire « c'est du pain et ça restera du pain ». Alors nous continuerons tout à l'heure pour voir comment Luther en est parvenu à faire autre chose. Et alors je continue sur Luther. Dès son retour de Rome, il est allé plaider la cause de la stricte observance. Puis pourtant, il va passer au parti des moines, plus ou moins relâchés, qui sont les conventuels. On les appelait comme ça, ces augustes. Luther a désormais la conviction qu'il est inutile de lutter contre ses mauvais penchants. Il se décourage. Pour lui, la nature humaine, finalement, est corrompue, puisque le baptême ne fasse pas le péché originel, croit-il. Notre nature étant corrompue, bien nos actes ne sont que des péchés, finalement. Il est très pessimiste. Nos œuvres deviennent inutiles pour le salut, et il démissionne vraiment en disant que la concupiscence est invincible, et qu'il n'y a pas de liberté. Il va jusque-là, mais il se reprend. Il ne pensera pas toujours cela. Il croit que nous sommes donc les fils d'Adam, le béni du paradis terrestre. Mais alors que faire, puisque la concupiscence est invincible? Alors Luther répond, il faut laisser le Christ nous envelopper de sa miséricorde. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et c'est très beau, dans un sens. Dans un sens, il faut laisser le Christ nous envelopper de sa miséricorde. Je vous ai parlé du Sacré-Cœur hier, ça revient au même. Hein? Nous couvrir du manteau de ses mérites. Il crie, le Christ a tout fait à ma place. Pour lui, l'âme n'est pas régénérée à fond par la grâce, comme le prétend l'Église catholique. Elle est simplement recouverte des mérites du Christ. Il faut donc s'unir au Christ par la foi, dit-il. Cela seul importe. Combien de confesseurs, voyant des pécheurs qui reviennent toujours avec les mêmes péchés? Les meilleurs confesseurs, c'est ceux qui vont augmenter la foi de ces pécheurs. Et c'est ce qu'on fait d'ailleurs avec les, mettons, des pécheurs habitudinaires. Prenons les alcooliques. C'est une sorte de péché, l'alcoolisme, qui détruit leur mariage, leur rapport avec leurs enfants, leur font perdre leur emploi, détruisent leur vie. En les faisant croire, en les aidant à croire à l'amour de Dieu, bien, ils se transforment petit à petit. Hein? Et Dieu agit. Et c'est ça qu'il veut dire, je crois. Hein? Tout triomphant, donc, Luther lance à ses contradicteurs, il dit « Saint Paul ne dit-il pas que le juste vit de la foi ? Ne dit-il pas que nous sommes justifiés par la foi ? Ne dit-il pas que nous sommes incapables de faire le bien que nous voulons faire ?» Avec le Christ, il devient un peu surprenant, même il dit, c'est pas si scandaleux, il dit, on s'en est scandalisé autrefois, mais aujourd'hui, voyons, il dit, le Christ se courbe et laisse le pécheur lui sauter sur le dos, et il le sauve ainsi de la mort et du geôlier. Est-ce que ça rappelle pas l'anecdote, n'est-ce pas, de l'homme qui est porté sur les épaules de Jésus, et puis il n'y a plus de traces dans le sable, là. Une anecdote là-dessus. On se rend compte entre les cas jusqu'à quel point l'affaire du salut est simplifiée, jusqu'à un certain point. Mais c'est pas tout à fait fou. Il faut avoir recours, l'Église catholique nous l'enseigne, au sacrement, c'est-à-dire à la grâce de Dieu, à la présence de Dieu, à Dieu qui se jette en nous dans l'Eucharistie et nous transforme. Et qui se jette en nous dans notre cœur au sacrement de la réconciliation, qui bénit et sanctifie nos mariages. C'est pour ça que nous croyons que c'est un sacrement, ce qui est rejeté par Luther. Une seule chose importe en tous les cas pour lui, croire au Christ et recevoir sa parole humblement. Toute la vie chrétienne oscille donc entre deux pôles, le désespoir qui vient de la loi, qui est à peu près inobservable, et la certitude du salut qui vient de la foi. Et la foi, d'après lui, nous unit au Christ par une sorte de mariage mystique. Le Christ prend nos péchés, et nous prenons sa justice. Il déclare un jour, dès qu'on admet ce principe, tombe alors la messe, le purgatoire, les vœux du cloître et tout le reste. Il envoie tout promener, et c'est dramatique. C'est dramatique, et je ne suis pas d'accord avec lui, mais pas du tout. Et le principe de la justification par la foi seule, mais c'est chez Luther une espèce de fruit qui risque d'être bien amer, d'une crise de découragement. D'ailleurs, ça contredit l'enseignement de l'Église. Il suppose, c'est-à-dire, que nous ne sommes pas vraiment régénérés par le baptême. Il a pourtant réussi à s'implanter en beaucoup de pays, à satisfaire nombre d'âmes, qui, pour diverses raisons, faut bien le comprendre, étaient à la poursuite d'une façon de croire qui soit simple, peu gênante, capable de les consoler sans trop exiger. Il y a un passage de la Confession d'Augsbourg dont je vous ai parlé qui est significatif. Je cite, ça a été publié en 1530, ça, qui est le fondement de leur foi luthérienne, et de la foi protestante, pourrait-on dire. « Jadis, les consciences étaient tourmentées par la doctrine des œuvres à accomplir, des actions. » Elle n'entendait pas parler de la consolation de l'Évangile. Et ça existe, même aujourd'hui dans l'Église catholique. Il y a des gens qui pensent à faire ceci, faire cela, faire leur prière, aller à la messe. Je suis pas contre la messe quotidienne, j'y vais. C'est qu'ils font des choses, mais ils ont l'air aigris. On essaie de les saluer à la sortie de l'Église, ils ne nous regardent pas. On essaie d'être gentil pour eux, ils sont amers, et c'est triste. Mon Dieu que c'est donc triste. Alors dans la déclaration d'Augsbourg, là, il y dit aussi, il était donc nécessaire de publier, de renouveler cette doctrine de la foi en Christ, pour ne pas laisser sans consolation les consciences timorées, mais pour leur apprendre que par la foi en Christ, elles appréhendent la grâce et la rémission des péchés et la justification. Alors ce réformateur allemand, Martin Luther, éprouve une telle satisfaction d'avoir trouvé le principe de la justification par la foi seule qu'il déclare à la diète de Worms, « Je suis lié par les textes que j'ai apportés, ma conscience est captive par les paroles de Dieu. » Oui, je pense, moi, qu'il est sincère. Il ajoute, « je ne veux rien rétracter, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa conscience. » Et d'ailleurs, c'est la pensée de l'Église catholique aujourd'hui, c'est ce qu'on enseigne, on ne doit pas aller contre sa conscience. Une conscience éclairée, une conscience vraie, une conscience qui cherche aussi à s'éclairer. C'est sérieux, c'est pas... Parce qu'autrefois, mon Dieu, comment l'Église agissait-elle? Il raconte à la page 202 de ses mémoires, « Mais nos seigneurs évêques et princes, les catholiques ne veulent pas souffrir que l'on prêche l'Évangile. et que par la parole divine l'on arrache les âmes au diable. Il fait des accusations terribles. Il ajoute, il pense qu'il suffit d'égorger, et de cette manière, ils prennent au diable les corps, en faisant des exécutions, brûlant sur les bûchers, là, et ils lui laissent les âmes, ils laissent les âmes au diable. Ils réussiront comme les Juifs qui croyaient exterminer le Christ en le crucifiant. Bon, il n'y va pas de même morte, on peut ne pas approuver, il est violent. Mais, ça laisse à réfléchir, et on ne peut s'empêcher que de prier pour l'unité de l'Église, et pour qu'on approfondisse nous-mêmes notre propre foi catholique, afin que nos bras s'ouvrent, et que nous sachions prier en compagnie des luthériens, lors des grandes semaines ou à d'autres occasions, comme avec des frères séparés, d'accord, mais des frères. Alors Luther est désormais ce qu'on appelait à l'époque un apostat, un hérétique. Il devient même l'ennemi déclaré de l'Église de Rome. Et il est très dur à l'égard de l'Église de Rome. Il dit des choses épouvantables. Il dit que l'Église de Rome doit disparaître. Elle est en tout point, dit-il, corrompue. Le pape l'appelle l'antéchrist. Les évêques les appellent des suppôts de Satan. Alors il se laisse emporter, terriblement. C'est affreux. Or, pour combattre l'Église, il lui fallait un prétexte. Alors ce prétexte, il le trouve dans la prédication des indulgences qui était faite à l'époque par un dominicain qui s'appelait le père Tetzel. Et ce père Tetzel exprimait de façon équivoque toute la querelle des indulgences. Si vous donnez tant d'argent à Rome pour construire Saint-Pierre de Rome, eh bien vous recevez tant d'indulgences et vous pouvez les appliquer pour sauver des âmes dans le purgatoire, etc., etc. C'était extrêmement délicat, cette prédication. Et je ne dis pas que l'Église ne peut pas nous aider à aider les âmes du purgatoire. Mais quand même, il ne faut pas exagérer. Et Luther laissait entendre que la contribution pécuniaire avait une efficacité absolue et infaillible, indépendamment des conditions requises. Pourtant, l'Église insistait qu'il y avait des conditions requises de conversion personnelle. Mais il exagérait. Mais il y avait des gens qui comprenaient mal l'enseignement de l'Église. Une âme du purgatoire s'envolait vers le ciel, sitôt que le bol était versé, enseignait Luther, mais c'était pas tout à fait l'enseignement de l'Église, loin de là. C'était offrir à Luther, en tous les cas, l'occasion d'attaquer le pape et l'Église. C'était ce dominicain Tetzel qui prêchait mal, sur les indulgences. Alors, de la condamnation des abus de l'Église catholique, ben, notre réformateur Martin Luther, ce réformateur allemand, passe finalement à la négation de la valeur surnaturelle des indulgences au sens où l'Église l'enseignait. Il a nié pratiquement que l'Église a eu le pouvoir, moyennant certaines conditions temporelles et spirituelles, de remettre la peine due au péché, ce qui était extrêmement grave à l'époque aux yeux de toute l'Église catholique. Et dans toute cette bataille autour des indulgences, mais c'est l'Église que Luther veut frapper et abattre. Mais cependant, il va écrire à ce bon père Tetzel, le dominicain, alors qu'il est mourant. Vous voyez que Martin Luther n'était pas si épouvantable, loin de là. Il va lui écrire, « Ne vous tourmentez pas, mon père. Ce n'est pas vous qui êtes responsable de tout ce qui est arrivé. » Alors on voit quand même une délicatesse de la part de Martin Luther. Et le principe de la justification par la foi seule, mais ça a conduit Luther à une conclusion. À savoir que l'Église du Christ est invisible. Là, il part sur cette théorie que l'Église du Christ est invisible, elle est toute spirituelle, il ne veut pas la circonscrire à l'Église catholique. Et pour lui, l'Église ne manifeste sa présence dans le monde que par des signes qui témoignent de la foi des fidèles. Pour lui, l'Église est maternelle, non en ce sens qu'elle enseigne, c'est-à-dire qu'elle engendre plutôt à la vie divine, mais en ce sens qu'elle fournit une espèce de milieu, climat à la vie chrétienne. Alors pour Martin Luther, bien, l'union au Christ se fait uniquement par la parole. Et c'est là une grave et grave erreur. C'est à elle que se réduisent les fonctions du ministère du prêtre. Il déclare, selon Mélenchon, l'Église est une assemblée liée non à la succession dans l'office, dans la célébration de la messe, disons, mais à la parole de Dieu. Il ajoute, l'Église renaît là où Dieu restaure la doctrine et donne l'esprit. Il y a une part de vérité là-dedans, mais, à mon avis, des erreurs. Il n'y a qu'une seule succession apostolique, d'après eux, celle de la doctrine. Et dans l'Église, la réalité extérieure n'est qu'invention humaine, prétendent-ils. Alors, Luther affirme, l'Église de Rome n'a-t-elle remplacé la prédication de l'Évangile par l'imposition de la loi puis des réalités juridiques? Alors, il voit l'Église comme une espèce de mère un peu acariâtre qui a des lois, mais qui n'enseigne pas l'Évangile. Or, Dieu sait que dans l'Église, il y a eu tellement de saints qui ont enseigné l'Évangile. Jean vous en raconte constamment. Des saints qui ont vécu à la même époque. Et à la même époque, d'ailleurs, c'est là qu'apparaissent Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, et tant de saints merveilleux. L'Église est une mère qui suscite et engendre des saints magnifiques. Mais Luther ne le comprend plus comme ça. Il écrit l'Église pontificale et la nôtre ont le même baptême, le même sacrement de l'autel, les mêmes clés, la même écriture et la même parole. Qu'est-ce qui les sépare, dit-il? C'est que nous, les protestants, là, nous tenons la parole dans le sacrement. Nous suivons la vocation, nous célébrons selon la foi, eux, selon l'apparence sensible. Mais c'est une accusation fausse. En somme, pour Luther, les fidèles sont reliés directement au Christ indépendamment de l'Église. Ils s'assemblent localement pour recevoir la parole de Dieu et fournir, comme dit Karl Barth, l'occasion au Seigneur de leur parler. Karl Barth est un grand théologien luthérien de ce siècle. Alors, la doctrine catholique sur l'Église du Christ est autrement plus réaliste, il me semble, moi. Et plus complète aussi, elle tient compte de l'incarnation et de ses conséquences. Elle tient compte aussi de la nature de l'homme, à la fois esprit et matière. C'est le Christ lui-même qui a fondé, à mon avis, l'Église catholique. Et l'Église est à la fois visible et invisible. Et le Christ gouverne l'Église invisiblement par lui-même et visiblement aussi par son vicaire, par le pape. Il l'a pourvu de sacrements qui apporte la vie divine aux âmes, c'est ce que je crois personnellement. Et c'est lui, le Christ, qui agit par son Église. Il baptise le Christ, il enseigne le Christ, il délie, il pardonne nos péchés, et il offre le Saint-Sacrifice. C'est lui qui offre la messe, et c'est lui qui s'offre au Père par amour, et qui nous entraîne dans son amour éternel. C'est Pie XII qui a écrit, « Il ne peut y avoir aucune opposition ». Aucun désaccord réel entre la mission dite invisible du Saint-Esprit et la fonction juridique reçue du Christ des pasteurs et des docteurs. Car, comme en nous le corps et l'âme, elles se complètent et s'achèvent mutuellement. Elles proviennent d'un seul et même Sauveur, qui n'a pas seulement dit en insufflant l'Esprit divin, recevez le Saint-Esprit, mais qui encore a ordonné hautement et clairement. Et ça, c'est des commandements du Christ. « Comme mon Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie. » Et Jésus a dit aussi, « Celui qui vous écoute, m'écoute. » Mais en 1534, Luther achève son admirable traduction allemande de la Bible. C'était pas la première fois que la Bible était traduite. Il faut pas s'imaginer des choses comme ça. Regardez bien au début de vos Bibles si vous avez l'historique des traductions. Il y a eu des traductions françaises bien longtemps avant. C'est des bobards qu'on raconte souvent. L'Église luthérienne est alors constituée, on peut dire, en 1534. C'est au moment aussi où l'Église anglicane se sépare de nous aussi. Et l'Église luthérienne, on peut dire, a son petit catéchisme et son grand catéchisme. Elle a sa liturgie, sa messe, ses fameux chorales dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont si beaux, si beaux. Elle a ses sacrements, réduits à peu de choses. L'autorité passée aux mains des princes aussi, c'est très grave ça pour les luthériens. Ce sont les princes qui déterminent la religion de leurs sujets. Il n'y a plus d'église universelle, il n'y a que des églises particulières, c'est des églises d'État. L'église de tel duché ou de telle principauté ou de tel royaume. Et les biens ecclésiastiques appartiennent alors aux princes. Et c'est eux qui accordent les bénéfices, les fondations, les abbayes aux besoins. Quel est le rôle des Écritures dans cette Église luthérienne? Eh bien, Luther prétend que tout fidèle est assisté de l'Esprit pour lire et comprendre l'Écriture, et dans son manifeste à la noblesse, il dénonce le droit exclusif que s'arroge l'Église catholique d'interpréter la Bible. Et pourtant, Dieu sait qu'il faut une interprétation fondamentale, unique. Je dis bien qu'on peut se disputer, discuter, puis avoir des interprétations différentes sur des choses secondaires, mais sur les choses fondamentales, il faut bien qu'il y ait une directive. Moi, à mon sens, il en faut une. Autrement, on multiplie les églises comme on le fait aujourd'hui. Combien y a-t-il d'églises? Des milliers. C'est d'une tristesse. Et Luther affirme, du reste, ce n'est pas si difficile de comprendre l'Écriture puisqu'elle est parfaitement claire, plus claire que le soleil. Mais quelle erreur! Si elle était si claire que ça, comment se fait-il que les gens ne sont pas du même avis, hein? Alors que sont devenus les sacrements pour Luther? Mais il est catégorique, il dit « Je nie les sept sacrements, je n'en admets plus que trois. Le baptême, la scène et la pénitence. » La pénitence, c'est-à-dire le sacrement de la réconciliation. Mais il maintient quand même la pénitence. Mais que de changement! Ainsi, il n'est plus nécessaire de dire tous ces péchés graves, dit-il. À quoi cela servirait-il? Prétend-il, puisque l'homme ne peut pas ne pas pécher, alors désormais on pourra se confesser à n'importe qui aussi. Du moins, il y en a qui ont enseigné ça à un moment donné. Et l'essentiel du sacrement de pénitence, selon Luther, c'est la consolation qu'on en retire. Mais c'est vrai que dans le sacrement de pénitence, si on va là puis on n'éprouve pas, dans la certitude de sa foi, une consolation profonde d'être rentré en union avec Dieu, il manque quelque chose, c'est qu'il manque ce souffle au fond de notre âme pour aimer Dieu. Il y a là une part de vérité. Pour le sacrement de l'ordre, il dit « Nous sommes tous consacrés prêtres par le baptême », affirme Luther. C'est vrai, les catholiques disent la même chose, au concile on a dit la même chose. Il a raison, mais il prétend que l'ordination sacerdotale n'est qu'une désignation d'emploi, il n'existe pas de hiérarchie ecclésiastique, pourtant. Ils l'ont maintenu. Et c'est au prince, à cette époque-là, qu'il appartient de désigner les ministres de la parole. Mais les luthériens ont bien changé depuis. Vous savez, les luthériens se sont distanciés de Luther et en même temps en ont gardé l'essentiel. Et cet essentiel que l'on retrouve dans la confession d'Augsbourg, elle peut être en grande partie acceptée par l'Église catholique. Ça a été déclaré, hein? Que ce soit seulement par la grâce et par la foi au Christ, et non pas à cause de nos mérites que nous sommes acceptés par Dieu et que nous recevons l'Esprit Saint, c'est une doctrine qui en bonne partie est acceptée par l'Église catholique aujourd'hui. Ça a été déclaré, ça a été fait dans les grandes réunions. En tout cas, Luther était doué d'une personnalité puissante, débordante. C'est un grand Allemand qui fait penser à Goethe, à Beethoven. C'est un orateur de la taille des grands, grands orateurs. Puis il sait comprendre la foule, il sait deviner ses instincts, il exprime ses désirs. Il n'y a aucun scrupule dans ses expressions, cependant. Il y a des fois, si vous lisez ça, vous allez sursauter. Disons qu'il est influencé par Rabelais, peut-être. En tout cas, il raille, il invective, il insulte ses adversaires, ou il insulte le pape aussi. Oh, il ose même lui comparer ses ennemis catholiques à tous les animaux de la terre. Bon, il va très loin, je vous fais grâce, c'est un peu désagréable et déplaisant. Mais c'est pas seulement ça, Luther, hein? Mais il est pas toujours vulgaire, hein? Il sait s'élever au-dessus du terre-à-terre. Il manifeste souvent des sentiments très nobles. Et c'est un grand musicien, il compose, et ses chorales sont magnifiques et entraînants. Et Luther a su comprendre son temps, et l'exprimer avec force. Erasme s'est opposé à lui. Hein? Erasme maintenait l'unité de l'Église catholique. Erasme voulait une réforme, lui aussi, mais qui se fasse dans l'Église et non pas en dehors de l'Église. Il faut lire à ce sujet « Vraie et fausse réforme dans l'Église » du Père Congar, cet immense bouquin extrêmement important, où Congar insiste sur la réforme qui doit se faire dans l'Église. Mais il fait aussi une apologie de Luther dans son « Vraie ou fausse réforme dans l'Église ». Car Luther n'est pas, je vous le répète, que quelqu'un de négatif, loin de là. Hein. Pour applaudir Luther, il y a un certain nombre de clercs, à l'époque, pour qui les vœux monastiques, évidemment, étaient un poids. Hein. Et puis, Rome était tellement scandalisante que c'était effrayant. En somme, il a créé une mentalité nouvelle, qui est la mentalité protestante. Tout se passe entre Dieu et l'âme,
pour eux sans intermédiaire, qui fasse obstacle, sans cette église visible qui, pour moi, m'est très chère, et ça les, prétend ça les gêne dans l'intimité. Dieu est un bon Père qui n'exige que la droiture d'intention. Croyez au Christ et vous vous sentirez justifié. Il y a là-dedans une part de vérité. En somme, un très grand nombre de ceux que les catholiques considèrent comme leurs frères séparés sont évidemment de bonne foi, sont honnêtes et très pieux. Je salue là quelqu'un que j'estime beaucoup, c'est le pasteur Daniel Pourchaud, professeur à l'Université de Montréal, pasteur luthérien que j'estime au plus haut point. Mais seulement, ce qui me semble terrible, moi, c'est la multiplication des églises protestantes. Et Martin Luther étant finalement l'initiateur de ce grand mouvement de liberté qui a engendré des milliers d'églises protestantes différentes, séparées, divisées. Alors on peut se poser la question, comment refaire l'union? Mais c'est par l'amour. L'amour et le respect et la reconnaissance qu'il y a des saints parmi eux. Et je vous parlerai un autre jour de la sainteté protestante. Et je salue en même temps Raphaël Pirrot, qui avait réalisé à Radio-Canada il y a bien des années une série magnifique d'émissions sur Martin Luther, avec des collaborateurs extraordinaires. C'était dans la série Les Grandes Religions, le dimanche à 16h30, autrefois. Ah, si nous pouvions mettre la main sur ces émissions et les diffuser ici à Radio-Ville-Marie, ce serait une grande chose. Je peux vous conseiller de lire « Mes yeux s'ouvrent sur le monde protestant » de Jacqueline Monvic aux éditions Saint-Paul, avec une préface du Père Congar. « Mes yeux s'ouvrent sur le monde protestant », ça se lit très bien. Et un livre d'un jésuite, le Père Xavier Nicolas, qui vient de paraître « Les incroyants ont bousculé ma foi » aux éditions Salvator. Excellent bouquin, et un bouquin un peu ancien, « Le catholicisme à la découverte de Luther » par un protestant, un luthérien, Richard Stauffer, chez Delachaux et Niestlé.